Radio Okapi. Le journal, Estelle Masirica. Okapi.
Sommaire de votre journal des déserteurs et fardés secrets en Ituri, dans la province orientale, une coalition des groupes armés pilotés par le désormais général Cobra Matata avec un chapelet de revendications. Et pour une sortie de crise, la société civile locale plaide pour le dialogue. Le commandant de la zone opérationnelle FARDC dit ne pas y croire. Province orientale, la société civile s'alarme qu'une maladie non identifiée a coûté la vie à 25 enfants en l'espace de 3 semaines, dont 3 d'une même famille, au village Yabongonda. Le médecin chef de zone de santé, qui ignore tout de cette maladie, est attendu dans la contrée aujourd'hui. Nous irons aussi au Kasaï oriental où les routes se sont dégradées ces jours-ci, faute de moyens. Le directeur provincial de l'office des routes, qui s'en inquiète, est convaincu que tout est à refaire là-bas. Bonjour à tous. Commençons tout de suite par l'Ituri où des miliciens proches du colonel dissident Matata Banaloki alias Cobra annoncent la création d'une nouvelle coalition des groupes armés dénommée Kogai en sigle. Dans un communiqué publié hier jeudi, cette coalition exige du gouvernement central à Kinshasa notamment une décision d'amnistie en faveur de tous les ex-combattants, la reconnaissance de l'Ituri comme une province et le changement à la tête de la zone opérationnelle locale des FRDC. De Bounia, c'est une correspondance de Jean-Paul Bassila.
Le signataire de cette déclaration des coalitions désigne Cobra Matata comme tête d'affiche de leur mouvement et qu'il nomme désormais général. Parmi les mouvements signataires de l'acte, en dehors de la FRPI des Cobra Matata lui-même, il y a notamment une seconde aile du même mouvement dirigée par René Kokila, le Front Populaire pour le Développement Durable de l'Ituri, la Force Armée pour la Révolution d'un certain Kabouli et le Forces Armées d'Intégration de l'Ituri d'un certain Charité Sémiré. La plupart de ces chefs miliciens sont des déserteurs de l'armée régulière. L'amnistie, la reconnaissance de l'Ituri comme province, la création d'une région militaire propre aux Ituriens et le départ immédiat du colonel Falsi Kabo du commandement des FARDC dans la zone caractérisent leur carnet des revendications. Ils accusent celui-ci d'être auteur de l'assassinat du général Floribert Kissembo, un autre officier dissident FARDC mort il y a une année en territoire d'Ndjougou au cours d'une traque menée contre lui par des forces loyalistes. La société civile locale plaide pour un dialogue avec ses miliciens comme voie des sorties. À la zone opérationnelle des FARDC, les responsables ne croient pas à l'existence de cette coalition. Ounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Non loin de là, au nord Kivu précisément, près de 200 gorilles de montagne du parc national de Virunga sont actuellement menacés. Et pour cause, vous vous en doutez, les violents affrontements qui opposent depuis la semaine passée les FRDC au nouveau groupe rebelle M23 dans le secteur de Diomba. Nous sommes en territoire de Rutshuru. Ces animaux sont exposés ces jours-ci aux tirs croisés des belligérants. Ces préoccupations sont exprimées par le directeur chef de site du dit parc national de Virunga. Selon Emmanuel Demerode, 3 de 5 postes de patrouille du secteur de Mikeno dans le parc de Virunga sont évacués, laissant ainsi ces gorilles de montagne sans suivi permanent. Autre conséquence immédiate, le tourisme qui allait déjà de mieux en mieux dans le parc de Virunga est suspendu depuis la semaine dernière. Emmanuel Demerode est au micro de Bernard Denyangui.
On est extrêmement préoccupé par rapport au combat qui se déroule à l'intérieur du parc. Mais malheureusement, une partie importante de cette population de gorilles, entre 200 et 210, se situe à l'intérieur de la zone de combat. D'un point de vue économique, on est extrêmement inquiet par rapport à la situation, mais également l'avenir du tourisme en RDC. Le tourisme est une industrie qui peut énormément apporter à ce pays en termes de richesse et de développement économique. Ce site qui est le secteur gorille, c'est la raison principale pour laquelle les touristes viennent en RDC. Jusqu'au récent combat, il y en avait de plus en plus qui arrivaient. Je crois que c'était certainement une industrie qui a connu la plus grande croissance parmi tous les secteurs économiques au nord Kivu. Et donc c'est extrêmement dommage que cela a dû être suspendu dès que les combats ont commencé dans la zone.
Autre nouvelle, la situation des droits de l'homme dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo analysée par Amnesty International à Londres en Grande-Bretagne. Ce rapport annuel intitulé « La tyrannie et l'injustice n'ont plus de coups de franche » recense diverses exactions des droits de l'homme en 2011. Encore une fois, les éléments des FARDC et de la police nationale et des groupes armés opérant à l'est de la RDC sont accusés par cette ONG d'homicides illégaux, de violences faites aux femmes et aux filles, des tortures et autres mauvais traitements sans être punis. Jeff Ngoy a décortiqué pour nous ce rapport.
Le rapport n'est pas seulement sévère, il évoque aussi quelques progrès en matière de la justice militaire. En dépit de certaines accusations, comme le soutient la chargée de campagne à Amnesty International.
Certes, le rapport fait état de nombreuses et de graves violations des droits humains en RDC, mais il y a également eu des progrès dans le domaine de la justice. Et ces progrès passent notamment par l'adoption de lois qui étaient essentielles, comme la loi criminalisant la torture. Il y a eu des progrès, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. On l'a vu, la justice est capable de faire son travail et de le faire correctement. Ce fut le cas au Sud Kivu avec le procès de Fizi Baraka.
Tantôt, vous évoquez des faits qui se sont déroulés en 2010. Vous glissez immédiatement sur la période de 2012.
Alors, parce que tout simplement, ce rapport a été mis à jour, vu la date de sa publication.
Un lieutenant-colonel arrêté le 1er janvier à Fizi, puis rapidement condamné à de lourdes peines pour viol en février. C'est un succès que souligne l'ONG dans son rapport. En revanche, Amnesty s'insurge contre des enquêtes qui piétinent encore dans d'autres affaires de viol en masse, imputables aux éléments des FARDC ou groupes armés.
Changeons de registre pour parler santé. 25 enfants décédés en l'espace de 3 semaines suite à une maladie inconnue au village Yabungunda à Isangi. Nous sommes là dans la province orientale. La nouvelle a été rapportée ce jeudi par la société civile du secteur de l'Ouété dans une lettre. L'objectif est d'alerter les autorités sanitaires de la zone de santé rurale de Yabungunda. Cette structure appelle ainsi les autorités sanitaires de la province à agir au plus vite au motif qu'il y a urgence. Nous dit Joseph Bassaï de la radio Bondeco.
La situation est alarmante, informe la société civile du secteur Louété. Selon Jean-Luc Bissoubou, vice-président de cette organisation, la maladie fait ravage dans le village Yabungunda depuis le début de ce mois de mars. Les 5 enfants sont décédés, dont 4 dans une même famille, précise la même source. Les malades présentent les signes comme la forte fièvre, l'anémie et les vomissements. D'après le vice-président de la société civile qui habite ce village, les enfants malades n'ont pas beaucoup de chances de se rétablir. Les parents dépassés appellent à une intervention rapide des autorités sanitaires. Joint au téléphone, le médecin-chef des zones de santé rurale de Yabungunda dit n'avoir reçu aucune nouvelle de cette maladie par ses collaborateurs. Docteur Santos Lobois annonce tout de même une mission de supervision sur cet axe prévue ce vendredi. Cette délégation va vérifier ces informations en vue de les diffuser de façon plus claire, indique-t-il. À Isangi, les autorités sanitaires s'indignent toujours du traitement à domicile des maladies. Ces comportements retardent la riposte, conclut-elle. Isangi, Joseph Bassaï de la radio Bondeco, ou Radio Okapi.
Je vous amène maintenant au Kasaï oriental où le réseau routier est dans un état de délabrement très avancé. De Kabinda à Luputa, de Mbujimayi au Sankoro en passant par Kabeyakamwanga. En tout cas, les routes se sont totalement dégradées. Les ponts et les bacs ne sont pas épargnés. Pendant ces temps, tous les chantiers de l'office de route sont tout simplement suspendus depuis plusieurs mois, faute de moyens. Constat fait ce jeudi après-midi par le directeur provincial de l'office de route. C'était à l'issue d'une tournée qu'il a effectuée à l'intérieur de la province. Jean des Dieux Mikwiri pense qu'en cas de disponibilité de fonds, tout est à refaire. Il a dit à Emmanuel Elameji.
On a visité la route de Mbujimayi jusqu'à Kabinda, dont l'état est très criant. Kabinda jusqu'à Lubao, mêmement, il n'y a pas de route, jusque dans les Sankuru, Lodja Lomela. On a visité presque donc toutes les routes de Sankuru. Bon, c'est vraiment dans un état criant, les routes n'existent pas dans le Kasaï oriental. Si nous parlons encore de lac Mukamba jusqu'à Mbujimayi, c'est toujours vraiment trop dégradé. Bon, de Mbujimayi jusqu'à Mweneditu, Mweneditu jusqu'à limite Katanga, donc vraiment l'état de route est très très criant. On a suspendu les travaux depuis le mois d'août, tout ça c'est par manque de financement. C'est depuis le mois de septembre qu'il n'y a plus envoi de fonds de Kinshasa pour les travaux. L'office de route c'est un outil de travail de l'état, donc c'est l'état qui nous donne les moyens pour travailler. On ne peut pas parler de route sans l'office de route.
Revenons à Kinshasa, où le ministre des Transports et Voies des Communications se déclare impressionné par le niveau de destruction en 7 ans de la Société des Transports Urbains du Congo. Tenez, 11 bus de la STUC sur 235 réceptionnés par le gouvernement sont opérationnels. Justin Kalumba s'est ainsi exprimé ce jeudi à l'issue d'une visite de travail dans cette société étatique. Et pour aider la société à éviter la réédition d'exploits d'une mauvaise gestion, le ministre Kalumba préconise un partenariat public-privé. Innocent Olenga.
Le projet du gouvernement congolais de créer une grande société de transport des personnes dans les principales villes du pays semble avoir une mauvaise expérience avec la STUC. Dotée de 235 bus tout neufs de grande capacité dont l'investissement a coûté à l'État congolais 12 500 000 dollars américains, la STUC a déclassé complètement à ses jours 144 de ses bus, comme l'a dit Benoît Moutambaï, chef d'exploitation de la STUC.
Nous avons aujourd'hui des bus qui roulent, sont au nombre de 11. En revanche, nous avons 109 bus standards qui sont à déclasser et 35 minibus également doivent être dans cette corbeille de déclassement.
Ces tableaux sombres émotionnent les ministres des Transports qui estiment que l'État doit changer de méthode. Justin Kalumba.
Pour le gouvernement, c'est le pragmatisme. Nous allons essayer d'éviter le plus possible la gestion publique des véhicules qui sont affectés au transport en commun. Donc nous allons essayer de tirer toutes les leçons de la gestion passée et favoriser un partenariat public-privé.
Ce qu'il faut savoir, la STUC comme Cititrain doivent d'urgence bénéficier du gouvernement Matata Ponyo des fonds pour améliorer la qualité de leur travail, décision consécutive au chantage des transporteurs privés qui ont paralysé la ville de Kinshasa au début de cette semaine par leur mouvement de grève.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.